soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Leïla Kadoboudadi.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigrid.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Tanguy Passureau sera là tout à l'heure. En live, il y aura Jacob Banks. Et nos invités sont Françoise Fabian et Michel Larocque. Alors, Françoise Fabian qui est anonyme, puisque elle se cache derrière
elle
le casque.
Elle se cache derrière.
Non, c'est pas ça, c'est que j'ai comme des.
Vous avez un serre-tête.
J'ai un serre-tête, ça va me faire deux serre-têtes. Ça fera beaucoup, peut-être. Je vais essayer, tiens.
Mettez-le plutôt en barbe à ce moment-là, plutôt qu'en moustache. Voilà, ça vous va mieux en barbe qu'en moustache, Françoise.
Sinon, je serais un loup aussi.
Je suis ravi de vous accueillir, en tout cas. Nous sommes ravis de vous accueillir, Michel Larocque et Françoise Fabian, pour Brillantissime, le premier long métrage de Michel, dont vous nous aviez parlé. À ce micro.
Absolument.
Puisque c'est un projet que vous portez depuis combien de temps d'ailleurs ?
Alors, il y a plusieurs choses dans ce projet, mais c'est vrai que là vous parlez du projet Coprod, donc de cette communauté de Coprod que j'ai réunie pour partager avec eux les plaisirs de la fabrication d'un film. Et alors ça, je pense que ça fait un bon 4 ans, hein, si c'est pas 5.
Un bon 4 ans. Et l'écriture, la structure, l'idée de partir d'un divorce avec un salaud, il n'y a pas d'autre terme.
Un soir de Noël.
C'est pas un
salaud,
joué par Pascal,
il n'est pas heureux.
Pascal Elbé. Pascal Elbé à ce micro hier a dit j'aime jouer les, je sais plus si il a dit salaud ou salopard.
Mais c'est parce qu'il est maladroit dans sa façon de lui annoncer qu'il part, c'est ça qu'il veut dire.
D'accord.
Donc la structure. Enfin, il part pas pour rien.
La structure. On va arriver dans l'histoire.
T'as fait tout de suite.
Oui, les
c'est
filles.
C'est hyper animé. Hein,
mais,
bravo.
Non mais d'abord, vous avez eu l'idée, ce point de départ, le résumé du film, vous l'apportez en vous depuis.
Alors, attends, parce que c'est ça qui est compliqué. Le premier projet Coprod, c'était un autre film. C'est pour ça que ça a duré longtemps, qui parlait de terrorisme. Et donc, ça s'appelait Jeux dangereux. Et on l'a arrêté parce que c'était avant Charlie, le Bataclan.
D'accord.
Après, celui-là, je le développais parallèlement. Pourquoi ce sujet ? Parce que... T'as vu comment j'ai structuré quand même ?
Vous posez beaucoup de questions.
Hein,
et là, vous Michel. N'êtes pas coupé.
Non, mais c'est ça. Et donc, parce que je l'ai joué. C'était une pièce anglaise qui s'appelait Mon brillantissime divorce que j'ai adapté, où Angela racontait son histoire. Et voilà, elle racontait comment elle avait été plaquée et comment elle s'en était brillamment sortie.
Et ce film donc sort, lui, demain, avec de nombreux producteurs, à tel point que, Françoise Fabian, lorsque vous avez atterri à Nice, vous me disiez que...
Venir sur le tournage, oui.
Vous arrivez sur tournage à Nice,
oui,
et
alors,
on vous accueille.
Un monsieur très charmant est venu me chercher avec une limousine, ce que je trouvais tout à fait normal dans une grande production comme ça.
Pour votre statut.
Oui, voilà, d'abord. Et puis, il me dit, on est... tellement heureux que vous soyez là, ça nous fait tellement plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer, je me dis, il est gentil ce producteur,
non,
d'habitude ils sont
plutôt
froids. Oui. Et alors je lui dis mais vous qu'est-ce que vous faites dans le film là Il me dit je suis producteur. Je me dis mais les producteurs
c'est
qui viennent
chic.
Chercher les producteurs qui viennent chercher les acteurs c'est à la gare, c'est quand même assez rare.
et c'est
comme ça que j'ai compris que c'était
un des participants
qui sont au total des
3000 et qui sont tous génériques, hein,
c'est
donc voilà, ouais, ça j'adore,
c'est génial. Oui, alors le film,
il y en a un qui est là d'ailleurs dans le public, qui vient de Suisse et qui est, parce que c'est une des contreparties de venir assister
venez,
à des émissions,
venez
cher Coprod,
monsieur producteur venez. Non mais c'est intéressant, avant de rentrer dans le fond du sujet du film, je vous préviens, vous avez 25 secondes pour vous exprimer, après vous retournez vite à votre place. Il y a un moment, la démocratie
et puis,
a du bon.
Avec un accent suisse, c'est un peu lent, mais je dis pas ça pour...
Quel est votre prénom ?
Florian.
Florian, comment ça vous est venue l'idée de cliquer sur internet en disant je vais placer de l'argent, et je vous demande pas quelle somme, je vais placer de l'argent dans un film. Comment vous est venue l'idée ? Vous l'aviez déjà fait ?
Alors l'idée m'est pas venue directement, en fait c'est grâce à ma mère, c'est ma mère qui m'a tendu l'article, et je l'en remercie aujourd'hui parce que je suis là avec vous autour de cette table, et je vis un véritable rêve, donc voilà, je veux être acteur en fait depuis que je suis enfant.
Donc vous aimez le monde du cinéma?
J'aime le monde du cinéma,
maman,
plus que tout.
Maman vous dit regarde cet article.
Exactement.
On peut participer à la production du nouveau film de Michel Larocque.
Exactement.
Dans ce cas-là, vous allez sur un site dédié au crowdfunding, c'est-à-dire à la participation financière.
Tout ce qu'on prod, ouais.
Et voilà.
Ouais.
Est-ce que là, il y avait un pitch de l'histoire, il y avait quelque
oui.
chose
Oui, alors
pour...
à la base, c'était ça, c'était Jeux dangereux.
D'accord.
Effectivement. Donc bah voilà, de toute façon, quel que soit le thème, je
tant
suis passionné.
Tant que c'est Michel Larocque, vous y alliez.
Voilà, de toute façon.
Là, vous investissez donc de l'argent suisse non déclaré après impôt.
Exactement.
Dans le financement
de l'argent, Nagui.
Dans le financement d'un film sur le terrorisme. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses. Hein,
qui
ouais.
Ce
qu'il y a avec Nagui, bon, c'est qu'il comprend très vite.
C'est quand même de l'argent français. À l'époque, j'étais encore sur France.
Très bien, très bien. Et vous avez vu ce film ?
Oui, hier en avant-première.
Alors, ouais. Quel sentiment on a quand on est coproducteur d'un film et qu'on s'installe devant des dizaines de mètres carrés d'écrans pour voir ça en grand ?
Bah, c'est juste terrible. Je vous dis, c'est un rêve, en fait. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Puis on a l'impression que ça ne s'arrête pas, en fait.
Est-ce que vous aviez le trac? Est-ce que vous aviez le trac un peu?
Non,
quand même.
Alors, pardon, votre intérêt est qu'il y ait un certain nombre d'entrées et de réussites pour récupérer votre investissement, voire gagner ou pas du tout.
Mais non, pas du tout. Mais que ce que tu dis,
voilà.
Toi.
Non, mais c'est une question de Nagui, ça.
Ben oui. les producteurs, généralement, lorsqu'ils investissent en quelque chose, ils veulent un retour sur investissement.
Là, mon intérêt, en fait, il n'est pas un retour sur investissement. Je pense que le retour sur investissement, il est à long terme. Je remercie donc Michel Larocque d'avoir pu faire ça. C'est, je pense, la première qui fait ça, je crois. Donc en fait, pour moi, je le ressens comme ça. Ça me permet de mettre un pied, en fait, dans le monde
dans
du
le
cinéma.
Monde. D'accord.
Voilà. Et ça, c'est un grand merci. C'est
très
du fond
bien.
Du cœur.
Ouais.
On a bien fait la fête hier soir. Ouais. Je peux vous dire. Avec les comprendre.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée. Merci.
Mais en fait,
et félicitons les 3000.
Et s'il y a des bénéfices, tu sais, on versera à des associations.
C'est formidable.
Oui. Donc il va y avoir les Restos du Cœur, évidemment, puis des associations que les coprods vont choisir, et sûrement les familles des victimes à Nice aussi, parce que le film, il est très niçois. Et...
Pour pas qu'il y ait de débat avec, moi j'avais misé tant sur le film ou tant...
C'est une aventure humaine.
C'est trop compliqué.
C'était
non plus
une aventure
gérer,
humaine depuis le début. Ouais. On a tout de suite dit ça, que on reverse pas aux coprods, parce que c'était pas le but du truc. C'est pas comme en musique, hein, là, au cinéma, c'est un peu compliqué en plus, parce qu'il y a des priorités dans les retours sur investissement, justement avec les distributeurs, les coproducteurs des chaînes, etc. Mais en revanche, on a tout de suite dit, on mettra, s'il y a des bénéfices, et j'espère qu'il y en aura beaucoup,
je vous souhaite.
Ce sera pour les associations, donc on est très contents.
Un casting de dingue pour ce film où vraiment je me suis marré. Pascal Elbé, Oriane Deschamps, Kad Merad, Gérard Darmon, Rossi De Palma, entre autres, et vous, mesdames, François Fabian et Michel Larocque. Donc, le résumé, en effet, ça commence mal pour cette bourgeoise qui comprend pas toujours bien ce qui se passe et qui est
un peu perchée.
Ouais, un peu perchée.
Parce qu'elle a une mère qui l'a rendue perchée, hein, pardon. Hein.
Alors, la mère jouée par François Fabian est d'une méchanceté.
Non, elle est exigeante.
Non.
Réjouissante.
Je suis pas méchante, je suis une punaise. Ça n'a rien à voir.
Bah, vous en connaissez beaucoup, des punaises qu'on a envie de caresser, de câliner ?
Elle n'est pas méchante, elle est chiante, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est vrai.
Pas mais, juste, on va garder méchante qui est à la fin. Elle est méchante.
Méchiante.
Elle est méchante. Pascal Elbé qui, oui, a un petit, quand même, une situation un peu de salopard, c'est-à-dire que le jour de Noël, annoncé, je ne sais même pas si ça peut exister.
Le jour du réveillon, hop, il rentre à la maison, elle vient déjà de se faire, entre guillemets, plaquer par sa fille qui lui annonce qu'elle ne passera pas Noël à la maison, alors qu'elle fait tous les efforts, elle va faire les courses, elle va chercher la viande cachère.
C'est pour la bonne cause, c'est pour faire un concert, c'est pour répéter, c'est avec
ses potes. Ça, tu comprends. Alors là,
non, mais il y a le côté ado, je fais de la musique et je veux rester avec mes potes et on va pas rester les vestes vissées à Noël devant le sapin. Je peux entendre que le mari.
Mais non, il faut faire ça avant les cadeaux.
Bah oui, c'est ce qui se passe, oui.
Bah oui, non, c'est bien, c'est intelligent.
À part l'économie, toi, tu
vois. Si tu sais que tu quittes, fais-le avant les cadeaux.
D'accord. Là-dessus, il y a aussi un psy, Kad Merad, alors qui est lui-même dépressif, c'est-à-dire qu'il est dans un état de fragilité avancée. On a Gérard Darmon, qui est un poète marchand de légumes, littéraire, passionné.
Sort d'un film de Capra, Darmon, le personnage.
C'est ça. Rossi De Palma, qui est la copine dépressive sous...
substance.
Antidépresseur, justement, oui, qui prend tous les produits possibles et imaginables. Et qui vous aide, c'est quand même une ribambelle de bras cassés.
Ah non, je ne vois pas ça comme ça.
Non, c'est des êtres humains.
Je vois des gens fragiles, exactement, mais qui ont des forces aussi à d'autres moments. Absolument, ce sont des êtres humains complets et qui sont qui entourent cette Angela. Ouais. Complet et complexe, exactement.
Mais alors, elle va essayer de... Enfin, elle garde la tête haute, j'ai envie de dire, malgré les catastrophes. Et chaque catastrophe lui amène une nouvelle rencontre ou amène une nouvelle possibilité.
C'est ça que j'aime aussi chez elle, c'est que... elle change au fur et à mesure de enfin ça dépend qui elle a en face d'elle. Et c'est ça que j'aime dans l'humain, parce que j'aime pas les clichés, j'aime pas quand on dit oh, lui il est comme ça ou elle est comme ça. On est beaucoup plus complet. Enfin, je veux dire. Et puis il faut arrêter avec justement ce que j'aime chez Angela, parce qu'on dit elle est bourgeoise. Pourquoi? Parce que elle a cet appartement, qu'elle est très bien habillée, très bien coiffée tout le temps, etc. Sauf que le jour de Noël, elle va s'installer à côté du vendeur de fruits dans son quartier où un bourgeois aurait peur du regard des autres.
Bien
non,
sûr.
Et elle va passer 3 heures avec lui, il en a un peu marre d'ailleurs à la fin, mais elle va passer 3 heures avec lui pour parler et elle trouve ça normal.
Enfin, pour être écoutée, surtout.
Exactement.
Elle écoute pas des masses. Comme elle peut, quoi.
Alors justement, elle se soigne et peut-être que les blessures commencent par l'éducation, parce que la maman que vous incarnez, Françoise, comment, alors à part d'être casse-pied, une punaise, en termes d'éducation, on se demande comment elle a géré l'éducation de sa fille.
Je crois qu'elle n'a rien géré du tout, parce qu'elle était beaucoup trop égoïste. Elle l'a élevée. Elle l'a élevée, et puis voilà, elle l'aime bien, mais elle passe jamais Noël avec elle. Elle va sur le Danube pour, on s'en fout complètement du Danube, c'était pour jouer au bridge. Enfin voilà.
Elle part mal aussi, c'est-à-dire tout le monde est un peu son larbin, quoi, quelle que soit la situation.
Oui, alors elle vire toutes ses bonnes. Il n'y en a pas une qui est grâce à ses yeux. Elle est profondément égoïste. Il faut que les choses soient comme elle veut qu'elles soient. Voilà.
Je pense que tout le monde peut très bien comprendre ou avoir croisé un personnage comme celui que vous jouez, Françoise Fabian, parce qu'évidemment dans la vie vous êtes beaucoup plus délicieuse, heureusement.
Qu'en savez-vous?
Ça commence mal. Pour vous avoir souvent
le
croisé
doute dans le regard de Nagui, dans la radio,
une petite crainte.
Non mais attendez une seconde. Vous y croyez quand même au personnage que je joue?
Totalement.
Elle est dans un rapport en fait.
Connaissant vos qualités d'actrice, je me dis que c'est pas un documentaire non plus sur votre caractère. Voilà. Et donc, mais on a tous vécu ou croisé le personnage de la maman de Michel Larocque dans le film Dans la vie de tous les jours. Il suffit de faire la queue et qu'il y ait une dame au bout de cette queue qui mette 3 heures à discuter avec la vendeuse.
Et qui se fout des autres.
Et qui se moque totalement de ce qui se passe derrière. Et là, c'est elle.
À l'aéroport, j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit, écoute, je connais par cœur, la honte.
Non, mais c'est ça, le moment de solitude.
C'est ça, ouais.
Et vous avez mis beaucoup de vous aussi dans ce film. On peut pas raconter toutes les situations tellement elles sont ubuesques, rocambolesques et plein de rebondissements. Elle cherche quand même un tout petit peu elle cherche l'amour, évidemment, mais elle cherche peut-être la paix avec elle-même.
Exactement. Je crois qu'elle cherche à se comprendre et à se connaître, parce qu'elle n'est pas elle-même au départ, puisqu'elle est franchement la fille de sa mère, dans le sens où elle obéit à ce que sa mère lui a indiqué comme
donc,
vie.
Le départ de sa fille au moment du réveillon, le divorce annoncé de son mari, c'est comme une espèce de seau d'eau froide qui va la réveiller.
Exactement, mais comment se servir d'une épreuve pour tout d'un coup apprendre à se connaître, à se comprendre, à s'aimer et à être et terminer dans sa vraie vie.
Elle sait déjà qu'elle va pas très bien, puisqu'elle va voir un psy régulièrement.
Elle cherche des recettes.
Oui, c'est ça.
Des recettes de bonheur, oui.
Elle va voir un psy qui, sur le plan éthique, c'est quand même limite. Hein, il est quand même très amoureux d'elle.
C'est ça, c'est ça.
C'est limite.
Ce que j'adore surtout, c'est qu'il a des espèces de d'épreuves ou de mise en scène pour ses patients. On peut le retrouver aussi bien en haut du toit d'un immeuble.
Il va sur le terrain.
Oui, c'est ça.
J'adore ces moments. J'adore ces moments quand il est. Et alors, j'ai mis plein de trucs. Effectivement, autour de cette histoire, le casting est parfait.
Ouais.
Et j'ai autour de cette histoire qui est pas du tout autobiographique, parce que ça s'est toujours bien passé à Noël, en tout cas.
Jusqu'à présent. Ça va, on est en janvier.
Mais là, j'ai un an tranquille quand même. J'ai mis des trucs très très perso, quoi. Et par exemple, Angela, elle habite dans l'immeuble où j'ai toujours habité à Nice. Hein. Mes parents habitaient dans cet immeuble-là.
C'est génial.
Oui. Et un jour, j'avais fait venir des copains qui répétaient du rock à la maison. Il y a eu un attroupement dans cette même rue. Et ma grand-mère est arrivée, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, oh, mince, chez moi, elle est vite remontée. Enfin, non, mais vraiment, j'ai vraiment mis le truc. Et je pense à ça par rapport à Cad et Charlie Dupont, au départ, dans la première scène, qui fait du coloriage. C'est Villeray qui faisait du coloriage, Jacques Villeray, ouais, parce qu'il était un peu nerveux, ça le calmait. Et il me disait toujours, c'est pas facile de pas dépasser. Et tu vois, tous les trucs comme ça, voilà, je me disais, c'est mon premier long, je voudrais vraiment rendre hommage à mes copains.
À votre ville, à Nice, à toutes les activités que vous aimez.
Ah oui, ah oui là oui, bah, ça c'est mon éducation. Hein.
Voilà.
Là donc pour vous... le coup, la tennis. Danse, le tennis, ah oui, 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 ça c'est vraiment comme ça que j'ai été élevée à Nice, hein. Donc j'ai tout mis.
Il n'y a pas l'alcool.
Ah,
elle a été élevée à l'alcool, tu as un message
attends,
à nous faire passer,
Albert. Le soir de Noël,
oui, c'est vrai.
Elle est un peu beurrée quand même.
Ah ouais, quand même. Hein ouais, avec oui, le chien.
Avec le chien.
Donc c'est pas vraiment autobiographique.
Tu la trouves comment cette femme?
Là, je la trouve attachante. Je la trouve attachante parce qu'elle est, en effet, elle est paumée. Elle cherche le chemin vers elle-même. Elle cherche l'amour d'une mère qu'elle n'a pas forcément directement parce que sa mère la regarde juste comme un individu. Elle n'est pas plus méchante en fait. Je la trouve pas si méchante que ça. C'est juste qu'elle voit sa fille comme un simple individu, il n'y a pas de raison qu'elle soit plus tendre avec elle qu'avec les autres, en fait.
Même avec ses copines de poker, ouais. Marvia Longa, elle se prend une vanne.
C'est pour ça.
On ne va pas la dire maintenant, mais regardez à l'envie, mais elles seront une belle vanne.
Elle est sereine, en fait, dans sa relation aux autres. Elle est constante.
C'est ça qui fait rire, ça, les vannes.
Elle est constante.
C'est la méchanceté, par moments, qui fait rire. Ouais. Comme le drame.
Et même avec Gérard Darmon, le personnage, quand je dis qui c'est, lui, un ami, n'importe quoi.
C'est ça. Et justement, ce personnage de Gérard Darmon, je crois qu'il n'est pas dans la pièce.
Non.
Celui-ci, vous l'avez.
On l'a créé, oui. Absolument.
Et quel était le but c'est quoi le ressort d'avoir ce Gérard Darmon?
Justement,
dans
d'avoir
ce
cette oreille attentive. Il est très humain, ce personnage. Et puis, il a fait un vrai choix dans sa vie. On le comprend plus tard. Il est là.
On se demande même si c'est pas lui l'amoureux.
Exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'il est comme un ange gardien qui arrive, qui est là, par hasard, qui fait pas partie de l'histoire et qui va aider Angela à tout transformer.
Il était amoureux au début. Il a été calmé, ensuite il est devenu le bon copain.
J'adore tout ce qu'on projette.
Déjà très sensible.
Oui, oui. Ouais. J'ai oublié de citer Michael Youn aussi, présent donc, dans le casting, aux côtés donc, de Pascal Elbé.
J'adore ce personnage.
Non, mais vous avez...
Qui manque de confiance en lui, on peut le dire. Hein. Name dropping à tout va.
Clairement.
Mais quand il dit tu peux crier tranquillement, personne ne t'entendra.
Non, les voisins ont l'habitude.
Les voisins ont l'habitude.
C'est-à-dire, il y en a une tous les soirs qui vient crier dans ma chambre. Vous inquiétez pas, les voisins savent très bien ce qui se passe. Ça s'appelle Brillantissime, c'est demain au cinéma. Jean-Dominique Besnier. Vous avez bien compris pourquoi nos invités étaient là.
Mais oui, d'abord, bonjour Nagui, salut les losers, mes hommages, mesdames. Alors mon cher Nagui, ce matin, quelle amusante confusion, quel savoureux quiproquo quand vous êtes arrivé dans le bureau
oui,
de la bande originale, 2 minutes avant l'émission. C'est quoi aujourd'hui? Avez-vous demandé à GNB, notre rédacteur-chef mal rasé, qui est en régie derrière. C'est brillantissime, maître, a répondu GNB. Moi, je te demande pas ton avis sur mon enfance, ma carrière et mes chaussures. Je veux juste savoir ce qui est programmé. Brillantissime, je vous dis. Il en fallut pas plus pour que GNB se fasse tabasser toute l'émission. Mais brillantissime, maître, c'est le film réalisé par Michel Larocque qui vient nous le présenter avec François Fabian. Fallait le dire tout de suite, salopard. Passe-moi tes fiches. Surtout articule quand tu me souffles dans les questions dans les oreilles. Hein? Bon, alors où je t'envoie l'orthophoniste Jean-Dominique, parce que je suis le cousin de Dominique Besnier.
Ah, c'est ça. Hein.
Oui.
Alors, évidemment, on a compris.
Mais
dépêchez-vous quand même.
Précision. Tu veux que j'accélère,
s'il vous plaît.
Alors, cher Michel, cher François, vous voyez qu'il se passe des choses originales dans cette bande. Dommage que ce soit pas à l'antenne. Je suis dit, Nagui, en écoutant votre apologie aussi dithyrambique qu'improvisée, de brillantissime, je me suis dit que non seulement vous étiez l'animateur chéri des Français, mais aussi le prince du superlatif. L'âge des âges du mouillage de compresse, le maestro de l'encensoir, l'Einstein de la caresse dans le sens du poil. Dur à dire ça. Ah, pour tout ça, vous êtes aussi brillantissime. Alors, aujourd'hui, pas de test orthophonique pour terminer, juste une dernière réflexion. D'habitude, quand on reçoit des comédiennes, à la fin de l'émission, quand on en vient au projet, celles qui font du cinéma, on leur demande si elles veulent faire du théâtre. Celles qui font du théâtre, on leur demande si elles veulent faire du cinéma. À celles qui font les deux, on leur demande si elles ont envie de chanter.
Ah oui, c'est vrai.
Et à celles qui ont réalisé un court, on leur demande si ça vous dirait de réaliser un long. Alors, comme Michel Larocque vient de faire un long, succès à Leïla de lui demander si elle a envie de faire un cours. Hein. Ça sera une question originale au moins.
Mais François Fabien va faire un album.
Un album.
Ouais, elle va faire un album et on va en parler tout à l'heure.
Vous voyez que j'avais raison.
Mais c'est une première sur France Inter. Mais je l'ai dit à pratiquement personne.
C'est vrai?
Mais oui.
Ils savent tout.
C'est à la radio comme
ça. On sait tout.
Voilà.
Vous allez faire un album et un album qu'avec des chansons originales ou
oui,
des reprises?
Que des chansons originales qu'on a écrites spécialement pour moi.
À qui avez-vous demandé d'écrire des chansons?
À Aznavour, à Jean-Claude Carrière, à...
Wow.
Ah ben oui,
que des jeunes qui ne savent pas.
Alex Baupin, la grande Sophie, voilà.
Alex Baupin qui a fait la musique du film également Brillantissime.
Mais ça va J'ai 12 alors. Chansons.
C'est formidable.
Ouais.
C'est formidable. Et c'est déjà enregistré ou pointe
c'est
encore?
C'est déjà enregistré et ça va sortir probablement au mois d'avril ou mai.
On va découvrir ça avec appétit. Leïla, avec appétit aussi, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Françoise Fabian et Michel Larocque venaient aujourd'hui.
Oui, et quand je pense à vous, mesdames, j'aurais pu penser à des dizaines de films ou encore à des grands textes que vous avez pu jouer au théâtre. Mais je pense particulièrement à vous, Françoise, et à ce discours.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Voilà, Simone Veil.
C'était à l'ONU avec Simone Veil. On avait fait un grand spectacle comme ça.
Ouais. Alors là, ce jour-là, c'était le 26 novembre 1974. On a reconnu ce discours à la tribune de l'Assemblée nationale pour la légalisation de l'IVG. Un combat que vous avez soutenu, Françoise Fabian. Vous avez signé le manifeste des 343.
Salope.
Ou 343.
Ça s'appelait que 343. Ouais, après, c'est un surnom
qui est donné par la presse.
Mais le manifeste en lui-même s'appelait simplement le manifeste des 343. Point.
Mais oui, merci, je le sais, oui.
C'est important. C'est important, oui, parce que je trouve violent de.
Oui, oui. Ce mot est violent. On a été, fustigé.
Et vous êtes allé plus loin, vous avez témoigné à un procès, c'était à Bobigny, pour soutenir une jeune fille qui était jugée pour avoir avorté après un viol.
Oui.
Vous vous êtes adressé au juge en lui expliquant, vous pouvez peut-être nous raconter ce que vous lui avez dit à ce juge.
Je lui ai expliqué que si j'avais une fille de 14 ans qui était enceinte, je ferais tout pour la faire avorter, pour la bonne raison que à 14 ans, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne peut pas être mère. Enfin, c'est très 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 difficile. Et j'ai dit, monsieur le juge, j'ai avorté plusieurs fois. Taisez-vous, dit-elle. Taisez-vous, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Je lui ai dit, ben, vous le saurez. J'ai avorté, moi aussi. Et si j'avais une fille de 13 ans qui me dise, voilà, j'attends un enfant, je la ferais avorter. Taisez-vous. Il était fou furieux.
Déjà, enfin,
parce que c'était totalement illégal et interdit, évidemment.
Déjà, merci pour ce combat que vous avez mené. C'est important de remercier les femmes qui sont d'une autre génération et qui nous permettent aujourd'hui, à nous, femmes, qui nous permettent à moi aussi de pouvoir avorter, même si je n'ai pas 13 ans.
Et puis aux hommes de comprendre. Et aux hommes d'évoluer aussi.
Grâce à vous,
quand même,
on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Malheureusement, ça n'avance pas beaucoup.
Justement, je me demandais ce que vous pensiez de la place de la femme dans le monde aujourd'hui, en France, par exemple.
Je trouve que ça a régressé beaucoup.
À quel niveau ?
Parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se font avorter à 14 ans, et puis il y a aussi le drame du sida. Si on se fait avorter, c'est qu'on prend des risques aussi avec le sida. Et je trouve que c'est malheureux que ça régresse comme ça à ce point.
C'est-à-dire, vous seriez plus favorable à quoi, justement, pour éviter ça? Le préservatif?
Le préservatif et la pilule. On a tout inventé.
Et est-ce que vous comprenez cette nouvelle génération aussi qui considère que la pilule n'est pas forcément une bonne chose, sans renier l'héritage féministe et les luttes qui ont précédé? Mais le féminisme et aujourd'hui la modernité, c'est de pouvoir choisir et de dire non à la pilule. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? De ne pas vouloir absorber tous les jours de l'hormone, de ne pas vouloir tous les jours avoir son corps soumis à des substances.
Oui, mais c'est à leur risque et péril, ça. Il faut quand même qu'elles le sachent. Et puis, il y a des pilules qui vont à certaines personnes. Et puis, il faut changer. Il faut savoir ce qu'il faut.
Les hommes peuvent mettre des préservatifs. Hein,
oui, mais il y a beaucoup de possibilités, bien sûr. Puis, les hommes peuvent aussi être conscients qu'il y a des problèmes qui se posent avec les femmes et dont ils ne se sentent pas tout le temps responsables.
Non, parce que ce qui me chagrine en ce moment, c'est qu'on tente d'opposer l'ancienne génération génération de femmes et la nouvelle génération de femmes qui n'ont pas forcément le même avis, et c'est justement ce qui fait la pluralité, c'est important, et c'est ce qui fait avancer un débat ou une cause, et de voir souvent des jeunes féministes opposées à des anciennes, les anciennes étant très campées sur des positions il faut la pilule, et les plus jeunes disant je vois pas pourquoi on m'imposerait ça.
Alors racontez-moi pourquoi.
Alors moi personnellement, pourquoi je ne suis pas individuellement, et ça ne regarde que moi, donc je suis une voix de femme parmi une multitude de femmes, et je prends mes précautions quand je le dis, personnellement je ne suis pas favorable à la pilule contraceptive dans mon quotidien, parce que la pilule ne me fait pas du bien au corps, parce que à un moment où essaye de manger bio, de faire attention à ce qu'on ingère, tous les matins prendre une dose d'hormones, moi je le conçois pas, je l'ai jamais fait, voilà, j'ai 37 ans, j'ai jamais pris la pilule de ma vie, il y a d'autres pratiques, il y a...
C'est pas facile. C'est incroyable. Il y a un progrès à faire. Je comprends pas comment on n'a pas encore trouvé quelque chose justement qui soit pas hormonal et qui nous
permette la solution. Mais moi aussi, c'est incroyable. Alors en attendant, on fait avec les solutions qui nous restent. Il y a le préservatif, il y a la méthode de retrait, il y a plein d'autres méthodes. Après, on peut calculer son cycle. En tout cas, on est quand même dans une période où les femmes ne veulent même plus mettre de tampons, ce que je comprends. On adopte d'autres solutions pour le corps. Donc je me dis, j'ai pas envie de m'opposer à des femmes comme vous qui ont mener un combat tellement important qu'il ne faut pas renier ce qui a précédé et qu'on est capable de s'entendre sur ce genre de sujet.
Il y a encore d'autres progrès à faire, tu as raison.
Oh, il y a toujours des progrès à faire.
Bien sûr. En tout cas, merci Françoise pour tout ce que j'ai lu sur vous, vos interviews, votre engagement. Dès le départ, c'était pas simple à l'époque. Je trouve que ma position individuelle aujourd'hui, elle est facile à adopter. J'ai le choix. J'ai le choix entre prendre ou ne pas prendre, et c'est grâce à ces femmes-là, il faut le dire.
C'est pour ça qu'on nous a appelé les 353 salopes, 4 salopes.
Et on peut parler aussi.
Eh ben alors moi je suis assez fière d'être une salope.
Ah oui.
Non, on peut parler aussi au nom des hommes qui ont des filles. Ouais. Parce que pour nos filles aussi, merci.
Mais oui, bien sûr.
Absolument. Absolument.
Bravo.
Et vous,
Michel,
j'ai pas demandé à Michel votre position sur la femme aujourd'hui. On parle beaucoup. On est en ce moment dans
j'ai un petit problème dans la généralisation. Ouais. Je n'arrive pas à dire la femme est comme ça ou la femme. Je connais des femmes extraordinaires qui ont pris en main leur vie. Je connais des femmes qui sont très fragiles. Donc, je n'arrive pas à dire la femme aujourd'hui. J'espère tout simplement que celles qui sont fortes vont aider celles qui le sont moins. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Dans les histoires harcèlement dont on parle, les tribunes qui ont déclenché une vague de...
Je connais des femmes qui savent se défendre merveilleusement. Ouais. Je connais des hommes qui sont plein de délicatesse. Je connais des hommes très violents. Non, mais voilà. Donc c'est des cas particuliers. C'est très difficile.
Mais c'est pas très difficile aussi parce qu'il y a l'ignorance.
Mais oui.
Moi, j'étais au planning familial. J'ai vu des choses extraordinaires. Les femmes ne savent pas. Beaucoup de femmes ne savent pas comment elles sont faites.
Ouais.
Et alors, il y en avait une qui est venue. Là, elle est venue en pleurant. Elle attendait son sixième enfant, une Espagnole. Et qui avait pas des moyens, elle était femme de ménage et son sixième enfant et elle pleurait. Hein, voilà, j'ai 5 enfants. Et alors je dis mais pourquoi vous prenez pas la pilule? Prenez la pilule. Il fait mais non, je peux pas prendre la pilule parce que mon mari ne pourrait plus me toucher. Je dis mais pourquoi vous le dites? Ah ben parce que je suis catholique et je peux pas ne pas dire à mon mari ce qui m'arrive. Mais des choses hallucinantes.
Je suis d'accord avec Michel Larocque. Chacun a une histoire particulière, une éducation particulière. Et on ne peut pas généraliser, ça devient une forme de racisme de mettre les gens dans des boîtes en disant les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Dès qu'on met tout le monde dans une catégorie, c'est délicat.
On avertit, mais chacun fait ce qu'il veut.
Bien sûr, non, mais c'est ça.
Il y a le choix aussi.
C'est ce que je dis.
C'est ce qu'on dit.
Chacun est libre, a le libre arbitre et a sa vie.
Mais c'est ça.
On ne peut pas mettre tout le monde dans une même catégorie.
On ne peut pas mettre tout le monde. On avertit. On dit des choses vraies et qui sont possibles, mais maintenant chacun fait ce qu'il veut.
C'est un vrai sujet dont on va, j'imagine, énormément parler avec la PMA qui va revenir. Oui, l'important c'est de parler et d'entendre les opinions des uns et des autres. À propos de parler et d'entendre, écoutez cette voix. Il s'appelle Jacob Banks. Et il a une voix qui va vous donner la chair de poule, Chain Smoking, c'est le premier titre en live de Jacob Banks dans la bande originale.
Bravo! Quelle voix, j'adore ces voix.
getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. I know my lease is up and the bailiff's at the door. And still I'm hanging on to the life we had before. I know this cold and love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. We watch the water rise while waiting by the shore. Take me on top of the world and leave me on the floor. You say you are meant to be, and I've seen your odyssey. I'll be a casualty when morning comes. Oh, 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 no. Oh, 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 no. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can be good for my lungs. Skin harder to breathe. Say smoking your love. Can be good for my sanity. Can be good for my lungs. Say smoking your love.
Chainsmoking, l'accro au, on va dire au tabac, mais c'est Chainsmoking of Love, c'est-à-dire accro à l'amour. On va en parler avec lui dans quelques instants. Il est né au Nigeria il y a à peine 26 ans, puis ils se sont installés à Birmingham il y a à peine 15 ans, lui et sa famille. Pour résumer, tout était absolument pas parti pour être dans la musique. You planned to be an engineer before being a musician.
Yeah, I was a civil engineer.
Il devait être un ingénieur civil. Et and one day you've got a problem in your apartment.
Yeah.
Un jour il a un problème dans son appartement, c'est-à-dire qu'il s'était installé. You were a student. You were by yourself or living in?
I was living with two of my friends and yeah.
Roommates, ok. Yeah. Donc il était avec des colocs dans son appartement. Ils se sont fait cambrioler. Donc ils ont tout volé. They take it all, except...
Except my red guitar called Mrs. Robinson.
À part sa guitare. But, ok. Oui, alors ça pourrait être une jolie histoire en disant, ouais. Bon, bah, ils ont tout volé, il lui reste sa guitare, et c'est normal, il est musicien.
Il peut toujours s'en sortir, oui.
But you didn't play this guitar. Mm-hmm. Il ne jouait pas du tout sa guitare. Ah, bon. Et c'était juste ornemental. It was just to be nice,
yeah,
in the room.
Yeah, just to be fancy, because it was red. No, no, voilà.
C'est juste, elle était rouge, donc autant la mettre là en déco.
Respectez la musique, c'est bon.
So you decide to play. How did you decide to take the guitar and play the music? Comment a-t-il décidé de se mettre à jouer de la guitare?
I intended to always play. At some point in my life, I knew I was going to play. Voilà. But I didn't know when. But it just sped up the process by
a lot. Yeah. Il savait que ça devait arriver un jour, mais ça a juste accéléré le processus. On another way, on another hand, you write poetry. Il écrivait de la poésie. You always wrote some stuff, even when you were younger at school. Il a toujours écrit, même quand il était petit à l'école.
Yeah, I always wrote poetry. I think I was always trying to find a way to express myself, and poetry was doing that for me for a bit, but I think I really found home when I could mix music and poetry.
Il a toujours voulu d'abord s'exprimer, donc la poésie était l'une de ses voies, évidemment, et il s'est totalement épanoui lorsqu'il a pu à la fois faire la musique qu'il aimait et mettre ses textes et la poésie. Quand il dit qu'il voulait s'exprimer, on peut le comprendre d'autant mieux que il était pensionnaire lorsqu'il était étudiant. You like to express yourself, but you told me once, il m'a raconté une fois qu'il était dans la voiture avec son père 2 heures pour aller au pensionnat. 2 hours pour revenir, 2 hours to go to your school, yeah, board school, and then to come back, and in the car, silence.
Yeah.
Et le silence complet, never a word between you and your father.
Yeah. Yeah, just as a stern man. He's, and plus, I think it was just, he didn't like, I don't think he enjoyed sending his kid off to school.
Donc il n'aimait pas déjà envoyer ses enfants à l'école et encore moins dans un pensionnat. Mais donc c'était le silence complet, 2 heures de route sans rien dire, toutes les semaines, chaque week-end. Aller et retour comme ça, 2 heures de silence aller, 2 heures de silence retour. On peut comprendre qu'il ait envie de s'exprimer et qu'il ait envie de pousser cette voix formidable. À propos de Chainsmoking, It's About Your Mother, cette chanson qu'il vient de chanter, c'est sur la dévotion de sa maman.
Yeah, so about my mom in the sense of my mom is a
devoted to love.
Yeah, yeah. She, you know, chain smoking your love is in the sense of like choosing love even when you know it's probably going to hurt or even kill you in some way. And my mom, you know, was a nurse and she would work. She'd work nights so she could spend her days with us, her kids. And it took a toll on her. Like she had to get her knees replaced early last year because she just spent so much time standing up. And yeah, it's just in the sense of I've seen my mom give up so much for us.
Alors, Chainsmoking, c'est ceux qui sont accros à l'amour. En l'occurrence, sa maman était une infirmière, donc elle travaillait la nuit, le jour, elle s'occupait de ses enfants. Elle a dû subir une opération l'année dernière, une opération des genoux, tellement elle a dû rester debout et était épuisée par la vie. Mais c'est une manière aussi de dire qu'il faut faire attention, que l'amour peut abîmer, peut esquinter. Toi qui es parfaitement bilingue, aide-moi dans ce que là, Michel.
Hein non, ouais. Mais c'est émouvant de parce que c'est aussi un hommage justement à quelqu'un qui lui a permis d'avoir cette créativité là et de
à sa maman,
et
ouais.
C'est
absolument mais il y a beaucoup, there is a lot of emotion in all the lyrics, in all your songs. Sometimes it's true story, sometimes it's your life, sometimes it's what you've seen in your life.
Yeah, I think I'm a storyteller, so I just I just report back to you guys.
Il aime raconter des histoires, que ce soit sa vie ou que ce soit ce qu'il voit, like a photograph.
We are strangers who share a photograph. Like that submarine that never made it back.
Il est en concert, une tournée européenne qui débutera le 13 mars à Cologne en Allemagne. Il sera le 15 mars à Hambourg, le 16 à Copenhague, le 20 mars à Amsterdam et à Paris. Ça sera le 21 mars au Trabendome. Did you sing on the soundtrack 50 Shades? Il a chanté sur la bande originale de 50 nuances degrés.
Yeah, we have a song with there's a group of guys from America called Lewis the Child, and we have a song together called Diddy Bop on the soundtrack. That's not me.
Oh, sorry. I thought it was you.
It's close.
J'étais pas loin, mais c'est pas lui. J'ai cru la voir. But it's not out already. C'est pas encore sorti.
Not even close.
Voilà. C'est même pas encore sorti. OK.
It's almost the same person.
Raté, c'est raté. Bon, il reviendra tout à l'heure. Il nous offrira une reprise de Calvin Harris avec Fields et un autre titre de son nouvel album. Thanks a lot, Jacob. We love you. Thank you very much. Take care. Dans la bande originale, voici l'humeur de Frédéric Sigrist.
Bravo.
Frédéric, vous voulez nous parler de télévision aujourd'hui?
Oui, Nagui, bien sûr. C'est d'autant plus surprenant que je n'ai pas de télé. Ah, vous me direz, j'ai plus de rapport sexuel non plus. Ça m'empêche pas de vous parler régulièrement de ma libido. Ah, je vais donc vous parler d'un programme télé que je ne regarderai pas parce que je ne peux pas. Et même si je pouvais, franchement, je regarderai pas non plus. C'est l'émission politique du 25 janvier sur France 2 qui recevra Laurent Wauquiez. Et vous avez vu, par solidarité avec mon combat, Alain Juppé a même annoncé hier qu'il ne paierait plus sa cotisation 2018 aux Républicains.
Exact.
En même temps, je le comprends, hein, quand tu perds l'usage de tes jambes dans un accident de voiture, il est assez rare que tu continues à payer ta cotisation au Club Med Gym. Hein. Il paraît même que Léa Salamé a prévu d'attraper une gastro le 24 janvier pour se faire remplacer par Tex. Et puis Wauquiez à la télé et sur le service public, ça sent un petit peu mauvais quand on voit que la semaine dernière, la rédaction de France 3 Rhône-Alpes, sa région d'élection, l'a accusé de faire pression sur la chaîne pour ne pas diffuser une série de reportages à charge contre lui. Traduction, les journalistes ont fait leur boulot, ça lui a pas plu. Mais alors, pourquoi nous parler de Laurent Wauquiez dès maintenant, me demanderez-vous avec la pertinence de l'animateur boulimique de travail, à qui j'aurais écrit une relance mais à qui j'ai pas donné.
Pourquoi nous parler maintenant?
Eh bien Nagui, parce que cet homme est devenu président des Républicains début décembre, quand on ne faisait pas vraiment gaffe, tout occupé qu'on était à se caresser devant des photos d'Emmanuel Macron et de Brigitte, le couple le plus hot depuis Jackie et Michel. Et puis, Laurent Wauquiez, c'est un peu la marque repère de la politique, celui qu'on choisit quand on n'a pas les moyens d'avoir autre chose. Dans les rayons des grandes surfaces, en général, le Nutella est en haut, tandis que le pot sobrement baptisé pâte à tartiner, lui, est en bas. Et ben, si on classait les politiciens de la même manière, l'électeur de droite qui jusqu'alors avait l'habitude de tendre le bras pour attraper des Chirac ou des Sarkozy, cette fois-ci, a dû se baisser pour attraper un produit premier prix sur lequel est juste écrit « homme de droite forte ». On regretterait presque François Fillon, qui a, rappelons-le, rejoint le bureau des objets perdus, hein, un bureau dans lequel on retrouvera sûrement les emplois de sa femme, mes cheveux, l'humour de Christine Angot, le dahu et tout un tas de chaussettes dépareillées. En fait, l'électeur de droite s'est retrouvé dans la situation d'une célibataire en boîte passée 4h du matin qui se rendrait compte qu'il ne reste plus que Daniel Morin sur la piste. Depuis qu'Emmanuel Macron...
Il n'est pas là pour se défendre.
Oui, mais juste, il aurait cautionné. Hein.
Il est sur la piste. Encore.
Depuis qu'Emmanuel Macron a explosé les partis, comme jadis l'ado qu'il était explosé ses boutons devant sa glace, il ne reste plus personne au PS comme chez les Républicains. Une partie de la jeunesse de droite, c'est-à-dire des gens qui ont entre 40 et 50 ans, a été recrutée chez Macron, tandis que les autres ont quitté le parti pour fonder des mouvements. Oui, les partis sont morts, vive les mouvements. Xavier Bertrand, Benoît Hamon, Najat Vallaud-Belkacem, ils créent tous des mouvements. C'est plus des politiciens, c'est des profs de Zumba. Mais Laurent Wauquiez, lui, il est resté, car il a senti que c'était son moment. Moment qu'il attendait depuis longtemps, car je rappelle que tout jeune militant, déjà, il se teignait les cheveux en gris pour avoir l'air plus expérimenté.
Non.
Mais si il voulait aussi mettre des lunettes, histoire d'avoir l'air plus intelligent, et puis s'est dit que c'était pas son cœur de cible. Pour plaire aux personnes âgées, il paraîtrait même, mais ça reste à confirmer, qu'il porte des bas de contention, histoire de mieux les comprendre. Si Laurent Wauquiez avait fait carrière à gauche, il serait aujourd'hui en train de faire la toupie sur la tête en écoutant du Aurel San devant une assiette de tofu équitable. Pour parachever son look, il a opté pour une parka rouge, immédiatement reconnaissable. Du coup, en meeting, Laurent Wauquiez, on dirait un Père Noël débutant en contrat d'apprentissage ou un livreur Pizza Hut. Mais attention, même s'il a le look d'Anne Roumanoff avec un pénis, niveau texte, on est plus proche d'Éric Zemmour. Hein. Marine Le Pen, à côté de Laurent Wauquiez, c'est une militante France Terre d'Asile. Hein. Lui, il n'est pas pour la préférence nationale, il est pour la préférence régionale. T'es breton et tu veux bosser dans la région Rhône-Alpes, il te faut un visa. Hein. À la tête de sa région, il a fait baisser les subventions destinées à la culture, l'écologie et aux droits des femmes au profit de l'enseignement privé catholique et des chasseurs. Franchement, si quelqu'un en ce moment en France a un projet de chasse à cour où on remplacerait les sangliers par des écolos, la région Rhône-Alpes peut le financer. En attendant son grand oral télévisuel, ça se passera le 25 janvier sur France 2 et ça sera sans moi parce que je crois que Léa va me refiler sa gastro.
Merci Frédéric Sinistre, bravo.
La bande originale, Nagui. France Inter.
Alors, la bande originale, nos invités, Françoise Fabian et Michel Larocque, on vous a demandé quelle musique vous écoutiez. Par exemple, dans les années 60, Michel Larocque, on était avec... J'adorais ça. J'adorais ça. Vous entendez ça à la maison?
Oui, j'avais tout, 45 tours.
Et c'est revenu,
45 tours.
C'est revenu très fort cette année parce que ça fait partie de la BO des Gardiens de la Galaxie.
D'accord.
Eh ouais.
D'accord.
j'aime bien le regard sur un coup un peu vide de Michel. Les Gardiens de la Galaxie. Ah ouais. Ouais, moi aussi je suis pareil.
Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film Marvel, les super-héros, Iron Man, Spider-Man.
Ils l'ont pris.
Et en fait, la BO est constituée que de grands titres voilà, des années 70 ou 80.
Et dans True Love aussi, je sais qu'à la fin du générique, série produite par Tom Hanks. Ils l'ont mis l'autre jour. Et du coup, ça m'a fait du bien de le réentendre. Mais
c'est,
j'avais,
super.
Ouais.
C'est super ce titre.
Et on est en 60, votre naissance, Michel, ouais, à Nice. Ouais. Donc, vous rendez hommage à cette ville d'Ans, brillantissime. Mmh. On a évoqué tout à l'heure vos activités, le piano, l'équitation, le ski, le tennis, la danse. Votre mère voulait faire de vous une athlète de haut niveau.
Pas c'est du quoi, tout, l'idée en fait. Elle est roumaine, ma mère. Elle s'était échappée de son pays, mais là-bas, c'était normal. Hein. Tout le monde joue d'un instrument ou deux, fait de la danse, fait du sport.
Et l'haltérophilie, vous n'avez pas fait.
Non, mais ça, c'est plutôt les Russes. Et donc, qui ont occupé la Roumanie.
Et votre mère, en fait, était danseuse dans un groupe folklorique.
Exactement, et violoniste.
Elle a échappé, en fait.
Elle s'est échappée en 58.
Pour fuir Ceausescu.
Et elle est devenue réfugiée politique.
Exactement, elle s'est échappée à Londres. Parce qu'on lui a dit que c'était... Très cool. Et donc, elle s'est échappée à Londres parce que, en fait, on lui a dit que c'était le dernier voyage de la troupe, pour des raisons politiques. Et là, elle a pris la décision de rester.
Dans ces années 60, Françoise Fabian, vous écoutiez votre ami.
J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères,
Aznavour. J'écoutais beaucoup de jazz. Beaucoup de jazz.
Et pourquoi vous avez choisi Tute la Salée, qui est quand même pas la chanson...
Elle est extraordinaire,
c'est extraordinaire. Redeviens la jeune fille que j'ai tant aimée. C'est magnifique. Redeviens la petite fille. Il a donné tant de bonheur. C'est extraordinaire. De regarder sa femme et de la revoir quand elle était jeune et quand il l'a aimée. Moi, ça me touche beaucoup.
Bah, elle aurait pu lui dire pareil aussi. Hein.
Mais oui, mais c'est pas elle qui fait les chansons.
Et dans ces années 60, Françoise, vous enchaînez un certain nombre de films qui vont rester très très importants dans l'histoire du cinéma. Il y a Le Voleur de Louis Malle avec Jean-Paul Belmondo. Et j'aimerais juste m'appesantir sur deux réalisateurs. Éric Rohmer dans Ma nuit chez Maud et Belle de jour de Buñuel. Buñuel qui était vraisemblablement un homme que vous n'osiez pas aborder, et c'est le seul réalisateur vers lequel vous êtes allé spontanément.
Oui,
vous l'avez sollicité pour
jouer avec lui.
C'est le seul, oui, c'est le seul. Je suis allée dans un bureau aux Champs-Élysées et il n'avait pas son sonotone et je hurlais, je ferai n'importe quoi avec vous, je ferai n'importe quoi. Je n'ai jamais demandé rien à personne, mais vous êtes à Paris, je veux faire n'importe quoi. Il me dit, ah ben, il n'y a rien à faire, il y a une petite copine de l'héroïne là, mais il n'y a que 5 jours. Alors déjà, je trouvais que 5 jours, c'était vraiment très peu. Je dis, mais il n'y a pas autre chose. Mais oui, il y a une putain qui est là, mais c'est pas votre genre du tout. Je voudrais qu'elle soit grosse et tout ça. Je me dis, je grossirais, je ferais n'importe quoi. Je voudrais faire la putain. J'ai pris 9 kilos pour lui faire plaisir. Mais c'est extraordinaire parce que je suis restée très amie avec lui. Eric Jean Stroheim m'avait offert son revolver qu'il avait toujours dans le film de Renoir. Et que j'ai offert à Buñuel, qui faisait aussi une collection d'armes qui marchaient, d'armes à feu qui marchaient. Et après, il m'a proposé ce film qu'il a fait. Oh, moi, j'ai pas la mémoire des noms, c'est affreux. Ils sont plusieurs comme ça. Il y a Delphine Seyrig.
N'attendez pas de nous d'avoir de la culture.
Bon, attendez, non, mais c'est parce que moi, j'ai pas de mémoire, pas de mémoire des titres ni des noms. Et il m'a proposé ça, et puis je me suis pas du tout entendue avec le producteur, qui voulait que je fasse ça pour rien. Je dis, moi, je gagne ma vie, je fais pas ça pour rien. Alors, vous me payez, ou je le fais pas. Mais je l'ai pas fait.
Il y a un autre homme aussi, c'est Rohmer, donc en 69, Ma nuit chez Maud. Et la rencontre, elle est assez folle, en fait, avec Rohmer.
La rencontre avec Rohmer, je jouais la puce à l'oreille à cette époque-là. Et Rohmer est venu un jour dans ma loge, une espèce de grand lévrier comme ça, silencieux, et qui m'a dit, voilà, je voudrais que vous lisez ça. Je l'ai écrit pour vous. Si vous ne le faites pas, je ne le fais pas. Alors, tu as trouvé ça extraordinaire. Alors, j'ai lu ça et j'ai dit à mon agent, je veux faire ça absolument. Elle me fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un film en noir et blanc pour la télévision. C'est pas du cinéma. Je dis, oui, mais c'est tellement bien écrit, tellement bien. Moi, je veux le faire. Et puis, j'avais rencontré Truffaut qui m'avait dit, il faut absolument le faire. Vous ne connaissez pas ce metteur en scène. C'est un metteur en scène formidable. Et là-dessus, Rohmer, comme je ne le connaissais pas, a provoqué. On est allé dans une dans un cinéma pour faire cette projection. Et il m'a montré la collectionneuse. Il m'a dit, voilà, c'est le genre de choses que je fais. Mmh. Et puis, on a fait Manu chez Maud comme ça. Mmh. On n'a jamais fait qu'une seule prise. Mmh.
D'accord.
En 2012, Michel Larocque, vous écoutiez... Et là, c'est le spectacle avec Pierre Palmade, Leïla.
Michel Larocque et Pierre Palmade se re-aiment.
Ah oui.
Encore une histoire d'amour incroyable, tous
mais
les
oui,
deux.
Mais oui, parce qu'on se pour manque, alors chaque fois, on crée un nouveau spectacle. Et voilà, hier soir, et d'ailleurs, il y a eu l'avant-première du film, il était là. C'est tellement chaleureux d'avoir... J'ai pas eu l'impression d'avoir une famille... Et aujourd'hui, je me rends compte que j'en ai une. Je veux dire, famille artistique, dans, artistique et professionnelle. Ouais. Ouais. Mmh. Je me rends compte vraiment que j'en ai une et j'adore ça.
Et vous avez du mal à le convaincre de remonter sur scène. Qui est le plus enthousiaste à l'idée de repartir?
C'est souvent moi qui vais le chercher.
Qui est le moteur.
C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Je lui dis, allez, viens, on va s'amuser. Alors, il a d'autres envies. Et puis, je lâche pas. Je lâche pas, il craque.
Et puis là, il a du boulot. Il faut qu'il finisse d'écrire la pièce de théâtre qui démarre la semaine prochaine.
Exactement.
Il a du boulot.
C'est Pierre, ça.
Il a joué au rond-point.
C'est formidable.
Je parle du pièce de théâtre de la Madeleine.
Oui, mais il a joué au rond-point.
Mais là, il vient de rejouer. C'était formidable. Formidable.
Quant à vous, Françoise Fabian, vous écoutiez Renaud.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Regardez les gens tant qu'il y en a.
Il m'émeut, il m'attendrit beaucoup, Renaud.
Année de récompense pour Françoise.
2014, vous êtes nommée au César pour votre second rôle dans Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. Vous êtes nommée au Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle pour Tartuffe, mise en scène Luc Bondy. Une année d'honneur.
Oui, moi j'aime pas tellement les honneurs.
Ah d'accord.
Oui, les prix, il y a des merveilleux comédiens que personne ne connaît parce que les gens ne vont pas les voir et qui méritent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tout ça et qui n'auront jamais rien. Il y a par exemple un metteur en scène qui est merveilleux, qui est Pomera, et qui fait, ses pièces et qui a sa troupe. Jamais un acteur de Pomera n'aura jamais de prix. Et ben, je trouve ça pas normal. Voilà. Je m'en fous, moi, des prix. Je m'en fous des prix.
Françoise Fabian et Michel Larocque sont nos invités pour parler de Brillantissime qui sera demain au cinéma. Retour en live de Jacob Banks. Et il nous offre une reprise, cette fois-ci. Celle de Calvin Harris qui s'appelle Feels et c'est en live dans la bande originale. Jacob Banks, Feels.
Sucker for your love, I'm wearing your goggles. Virtual reality, it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, do you mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you, no? To memorize the way you shock me, the way you move it here. Just wanna feel it from you, no? Don't be afraid to catch feels. Ride drop top chasing thrills, baby. I know you ain't scared to pop pills. Baby, I know you ain't scared to catch feels. Feels with me, no, oh no. Yeah. I'm your window shopper, sucker for your love. I'm wearing your goggles, virtual reality. It ain't what it cost you. It might be your dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, do you mind if I still a kiss? No, no. A little souvenir.
Can I steal it from you? No. To recognize the way you shock me. A little souvenir. Just wanna feel it from you. Don't be afraid to catch feels. Ride drop top chasing thrills, baby. I know you ain't scared to catch feels. Baby, I know you ain't scared to catch feels. Feels with me, no. Don't be afraid to catch feels. Oh, no. Ride drop top chasing thrills, baby. I know you ain't scared of pop pills. Baby, I know you ain't scared to catch feels. Feels with me.
Jacka Banks avec ce titre Feels, normalement de Calvin Harris, chanté par Pharrell Williams et Katy Perry. Il reviendra dans la deuxième partie de cette émission, tout comme Françoise Fabian et Michel Larocque. Tanguy Pastureau, vous aussi, vous serez dans la deuxième partie de cette émission.
Oui, bonjour, bonjour.
Nagui. Et personne ne parle de Miss Prestige National.
Non, et moi je vais vous en parler justement parce que je sens que c'est un sujet tabou dans les médias.
Mais pourquoi vous n'en parlez pas plus que
et
ça?
Et ben voilà, ça va venir.
D'accord, ok.
Vous
à
allez
tout,
voir.
À tout à l'heure dans la deuxième partie, après les infos de midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kaddour Boudadi.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Et nos deux beautés géniales, François Fabian et Michel Larocque.
Bonjour.
Sans oublier, sans oublier Jacob Banks qui n'a pas l'air de vous déplaire.
Ah,
comme
je trouve
bel homme,
fabuleux. Hein. Et puis il dégage quelque chose de, d'abord de très doux et un peu magique comme ça.
Et,
vraiment.
Et
est terriblement énervant.
Et tellement il est beau, fragile et talentueux.
26 ans, avoir une voix comme
et
ça.
Costaud. Ouais. Et costaud. Ouais.
Il reviendra chanter tout à l'heure dans la bande originale. À propos de chansons, dans la bande originale de votre film.
J'ai les semelles qui collent.
Ah, oh, c'est joli.
Le bitume du fond, j'ai les semelles qui collent.
Alex.
On dira pas ce qui se passe à ce moment-là. C'est le moment émouvant où les larmes commencent à piquer les yeux.
Et tu sais, à Nice, la musique, elle existe, elle est là. Hein. Il y a des très très bons musiciens. J'allais passer des nuits entières à les écouter faire le bœuf. Les frères Ceccarelli.
C'est vrai.
C'est un des immenses.
Dédé Ceccarelli, énorme.
Et Jaffé qui faisait de la basse fretless extraordinaire. Enfin, j'ai été baignée.
iPhone,
mais
vrai.
dans la musique, là-bas aussi.
On va quand même préciser que c'est Oriane et vous qui chantiez, donc c'est-à-dire voilà, votre fille et vous. Quand vous disiez tout à l'heure, vous avez tout mis dans ce film qui commence par un divorce et comme on l'a dit, chaque situation vient, chaque solution soi-disant à une situation vient aggraver ce qui s'est passé juste avant, que ce soit le psy, que ce soit joué par Camérad.
Il y a beaucoup d'obstacles, voilà. Ouais.
Que ce soit Pascal Elbé, donc votre ex-mari qui, on se demande s'il reviendra pas. Le marchand de fruits et légumes, Gérard Darmon. Qui est au pied de l'immeuble, la copine dépressive Rossi de Palma qui ne vit qu'avec des médicaments et des antidépresseurs,
non.
Votre maman qui est pas chiante, qui est pas méchante mais qui est méchiante,
voilà.
C'est Françoise Fabian, tout ce monde et puis Michael Young qui veut vous faire découvrir le septième ciel aussi en vous en criant dans son appartement. J'ai l'impression que vous avez mis dedans d'abord vos amis.
Oui,
le casting
amis,
a été fait plus
potes.
Par affinité.
Oui, et puis c'est vrai que quand j'ai écrit, je suis une actrice donc tous les personnages les plus petits étaient très très importants pour moi et je trouve que c'est ça qui fait un grand film. Donc j'ai commencé en allant peut-être un peu vers la facilité, mais en imaginant des grands comédiens pour chaque rôle, aussi petit soit-il, et ils m'ont tous dit oui, donc j'ai vraiment une chance incroyable.
Vous diriez quoi, que c'est une femme qui finit par prendre son destin et sa vie en main dans Brillantissime ?
C'est une femme qui finit par apprendre à se connaître et être dans sa vraie vie, pas dans celle qu'on lui a indiqué de suivre.
Et y compris dans ses rapports avec sa fille, sa mère et son mari.
C'est-à-dire et oui, il y a des programmes un peu familiaux aussi.
Ouais.
Pourquoi c'est émouvant ce moment-là ? C'est parce que tout d'un coup, on va dénouer quelque chose qui existe dans la famille, puisqu'au début, très très tôt, je le dis d'ailleurs à Gérard Darmon, donc le vendeur de fruits, je dis toutes les femmes de ma famille se sont retrouvées seules. Donc, de temps en temps, dans
même,
une famille, dans une chaîne...
Grand-mère, on sait
oui,
pas,
c'est ça. Ouais. Il faut être l'élément de la chaîne qui arrête ce programme. Et ça, c'est tout un travail.
François Fabian, c'est pas la première fois que vous jouez dans un premier film d'un réalisateur, être dirigé par Michel Larocque. Comment vous nous le racontez?
Ah, écoutez, c'est quand même assez rare parce que Michel, elle rit tout le temps. C'est-à-dire qu'on commence à tourner et elle est contente. Elle est déjà contente avant.
Ça veut dire quoi? Elle n'est pas concentrée sur ce qu'elle fait, vous voulez dire?
Non, pas du tout. Elle est heureuse de ce qu'elle va faire. Elle est heureuse de ce qu'on va faire. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de lui faire plaisir.
Et surtout pas la décevoir.
Mais surtout pas la décevoir, c'est mon problème parce que je suis quand même très timide. Et j'ai le trac. Mais
Encore le trac?
Ah oui, toujours. Oui. J'ai toujours le trac, toujours, oui. Et je ne suis pas sûre de moi du tout. Vous voyez bien, je bégaye, je ne trouve pas mes mots. Je ne suis pas quelqu'un de sûr de soi du tout. Mais Michel a cette espèce de grâce qui fait que on est là comme si on s'était toujours connus.
Et vous lui avez demandé si vous étiez un peu, votre personnage était un peu sa maman dans la vie?
Non. Parce que je connais sa maman et elle a un tel sourire que j'imagine qu'elle n'est pas du tout comme ça.
Elle est dans le film, c'est celle qui rit.
C'est celle qui rit.
Au bridge, oui. Il y a les quatre mères en fait, parce qu'il y a Françoise donc, qui joue le rôle de ma mère,
Marbelanga
qui était ma mère dans Comme t'es belle, Michel Moretti qui était ma mère dans Chouquette,
et ma vraie mère.
Voilà.
Donc toutes les mamans de la fiction.
Je
vous ai
mis dans une scène.
Mais quand je dis ça, c'est parce que vous avez mis beaucoup de vous
beaucoup.
Dans ce film.
C'est vrai,
il n'y a pas
beaucoup.
Que le fait que ce soit à Nice, pas que le fait qu'il y ait un peu de tennis, un peu de danse, un peu de musique.
Oui, beaucoup de choses que je pense et que j'avais envie de transmettre par le biais de cette histoire.
Et il y a aussi des choses que l'on ne sait pas, mais qui font partie de vous.
Ah, c'est-à-dire?
Dans le film, il y a des choses comme ça cachées que vous avez mises, mais que l'on va pas retrouver.
Ne répondez pas à cette question.
Que l'on va pas retrouver dans votre bio.
Non,
mais c'est une question, non.
Certainement, puis des choses qui m'ont échappé peut-être aussi. Mais c'est vrai que c'est marrant. Non, mais c'est un truc idiot.
C'est presque psychanalytique de faire un premier film.
Oui, parce qu'en fait, ma mère est une femme très gentille et qui peut ressembler à Angela. Mais ça, je l'ai compris en voyant le film. Et sa mère était une femme très dure. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il y a aussi quelque chose, c'est que ma mère donc s'est échappée de l'Est, et Kad dit que c'est un film qui est à l'Ouest. Donc voilà.
Très bien. Il nous manquait, Kad, avec ses rêves.
Bien,
I believe I can fly. Il nous manquait. Brillantissime, c'est demain au cinéma, porté par Michel Larocque.
Il est livré avec les sons et tout.
Qui sont nos invités dans l'émission. Voici Tanguy Pastureau, messieurs-dames. Tanguy, parce qu'on maltraite l'information, et Tanguy, les grands médias nous dissimulent les infos qui les plus intéressent.
Oui, c'est affreux, on nous cache tout. Ouais. Si j'étais parano, je dirais que c'est à cause des Illuminati qui tirent les ficelles du pouvoir.
Bien sûr.
Mais je suis sain d'esprit, je sais que les vrais décideurs, ce sont les aliens. Les médias dominants nous parlent tous de la même chose, de la neige l'hiver, de la canicule l'été, et de Macron le reste du temps. Pour le distinguer, c'est le seul qui reste à 36,9. Ainsi, il y a un mois, on nous a bassiné avec l'élection de Miss France, une certaine Maeva Cook, qui désormais végète sous Xanax dans des foires à la saucisse. Elle a déjà tenté de se donner la mort en se pendant sur le stand des andouilles. Et elle attend la délivrance dans 77 mois. Oui, la vie de Miss est tellement pénible qu'on compte comme pour les chiens. Un mois égale 7. Miss France, CTF1, la grosse machine. Rien que pour ventiler Jean-Pierre Pernaut, ils font tourner un réacteur d'Airbus en bout de plateau. Puis les Miss défilent en secouant leurs fesses comme des laitues qu'on égoutte. Et tous les vieux pervers bavent en matant des nanas de 18 ans en se disant, si je jouis maintenant ça m'évitera d'avoir à me frotter à ma petite nièce du même âge lors du prochain repas de famille, si je veux ressentir ce frisson d'extase qui ne m'habite plus que si je place mon sport et spécial abdo un peu trop bas. Mais il y a un autre concours de Miss que les médias boycottent, Miss Prestige National, lancé il y a 8 ans par Madame de Fontenay. La dame qui 12 heures par jour fait mariner sa tête sous un chapeau, c'est comme un wok mais avec un légume pas croquant. 8 ans que pas un grand média ne parle de Miss Prestige. Tout ça parce qu'en face, Miss France s'est en démol et qui claque en un mois plus de blé que le Burundi depuis son indépendance en 62. Ah, ils ont du pognon. Demain, si le planning familial leur demande un gros show sur la contraception, ils font venir sur TF1 les Kids United. Et l'ensemble des Français effrayés par ce qui peut sortir d'un enfant, de la morve, de l'urine et du démise rousseau, enfilent des préservatifs afin de ne pas perpétuer
ce massacre. Bref, Miss Prestige, je suis le seul à en parler puisque j'aime la loose. D'où ma passion pour Benoît Hamon, Europe 1 ou la carrière du groupe Nakache.
Bon, alors justement, qui a gagné le concours de Miss Prestige National 2018?
Eh bien, c'est une certaine Charlotte de Pape, hein, qui porte le nom de ce que voit un prêtre du Vatican s'il a sifflé tout le vin de messe. Elle a 22 ans, vient du Nord, comme toutes les Miss. Hein, Camissaire, Iris Mittener, Maeva Cook. Hein, si un jour les Hauts-de-France deviennent autonomes, on va rester entre moches. Et elle est sourde de naissance. Hein, une chance, puisqu'elle n'a pas entendu l'album de reprise de Barbara par Patrick Bruel. Oh. L'élection avait donc lieu samedi soir à Saint-Étienne, avec un budget de 74 euros, dont 72 en frais de graisse à traire et appareil à UV pour Bernard Montiel, qui animait la soirée. 3 heures de spectacle. Hein, les Miss Prestige ont d'abord défilé en costume représentant leur région. Miss Côte d'Azur a défilé à cheval sur sa mamie avec un Yorkshire. Miss Île-de-France dans une voiture à l'arrêt, à côté d'un mec en train de hurler « Je vais la tuer, Hidalgo !» Elles ont aussi défilé en robe de mousseline, ce qui, sur l'échelle de la ringardise, se situe entre le look de José Bové et la police de caractère comique sans MS. Enfin, elles ont défilé en maillot de bain deux pièces sur le thème de la plage. En voilà un thème original. Hein, les mecs se sont réunis, ont dit « Maillot de bain, ça vous évoque quoi ?» Il y en a un qui a dit « Je sais pas, la forêt. » Un autre a dit « L'Ukraine l'hiver. » Un troisième a dit « La plage. » Donc, ils ont appelé le comité Nobel pour savoir si on pouvait lui remettre un prix. Alors, le jury était composé de 8 stars, dont 8 connues au mieux par leur mère. Alors, présidente du jury, Rebecca Hampton, hein, actrice dans « Plus belle la vie », qui portait autour du cou sa page Wikipédia, imprimée sur feuillet 4 afin que tout le monde la remette. Assistée de Jean-Jacques Lafont, hein, qui en 85 a chanté « Le géant de papier ». Bravo Nagui. Hein, un slow dont le succès a été tellement court que personne n'a eu le temps d'emballer. Hein, cette année-là, la mononucléose est tombée à son plus bas historique. Alors il y avait Leroy Gomez, chanteur de Santa Esmeralda, un groupe des 70s fusionnant disco et flamenco. Si vous faites ça aujourd'hui, vous êtes fiché S en tant que potentiel terroriste. Dans le jury, il y avait Marie Myriam, hein, dernière française à avoir remporté l'Eurovision en 77. Hein, depuis, il n'y a que des brels d'autres pays qui gagnent au lieu de nos brels à nous. Enfin, c'est injuste. Et enfin, il y avait Julien Lepers. Et c'est là qu'être sourd prend tout son sens. Hein, Charlotte de Pape, qui n'avait pas le son, l'a vu sauter sur place et grimper au mur avec les dents. Elle a dit « Vite, le 15, il convulse !» On lui a expliqué que non, c'était juste sa manière d'être. Alors, si vous avez raté la cérémonie de Miss Prestige, c'est normal, hein, puisqu'elle était diffusée sur des chaînes locales, dont TV8 Mont-Blanc, hein, la chaîne des Saint-Bernard défoncée à l'alcool de Châtaigne, mais aussi TV7 Bordeaux, c'est comme Zen TV, hein, puisqu'on voit Alain Juppé en train de pioncer, et Canal 32, la chaîne de l'Aube, le département, hein, pas le moment où Frédéric Becbédé vomit. Bref, c'était magique, et on embrasse Charlotte de Pape, notre très belle Miss Prestige, et moi j'en ai parlé parce que je suis un rebelle.
Ouais, merci Tanguy Passion. France Inter, la bande originale avec Nagui. Dans la bande originale. L'album s'appelle The Boy Who Cried Freedom, Jacob Banks. C'est un mini LB, parce que sur cet album, il y a aussi... Hard time love. You come in every shade of blue. Là, on a envie de danser. Hein. On a envie de faire des bisous. Hein. Françoise.
Calme-toi, calme-toi.
On a envie de faire des bisous avec une musique comme ça.
Je danse facile et puis je.
Je fais des bisous.
J'aimerais bien chanter, chanter comme lui aussi.
On parlera justement de votre album dans quelques instants. Il va nous offrir un nouveau titre, lui, de son album, avant que je vous annonce la tournée qu'il va nous offrir. Jacob Banks, c'est avec Unknown to You. On parlait tout à l'heure justement des rapports un peu silencieux entre son papa et lui, avec tout le temps qu'il passait dans la voiture à ne rien dire, à ne jamais s'être dit « je t'aime dans la vie, je suis un inconnu pour toi ». C'est le titre de cette chanson de Jacob Banks.
Said, Why does everyone have me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no, I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool, no. Tell me you've been tortured, tell me you've been bitten, what I've done to you. Even if it doesn't matter, or matter also. Say that you don't want me, do you? Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been bitten. What I've done, you know. Even if it doesn't matter, or matter what's true, tell me that I'm unknown to you.
Avec Smooth Hamilton, Gillian Brown, Nathaniel Albert qui l'ont accompagné. Thanks a lot, guys. Take care. See you soon. Take care. L'album, je vous l'ai dit, la tournée surtout, le 21 mars, ça sera au Trabendo, et puis ensuite il sera au festival, le fameux Coachella, c'est un festival mondialement réputé, ça sera du 13 avril au 22 avril dans le désert californien de l'Indio, et l'album s'appelle The Boy Who Cried Freedom, avec cette sensibilité qui fait du bien, parce que c'est bien la sensibilité, c'est ce qu'on ressent aussi avec Brillantissime, mais il y a beaucoup d'émotions, on rit, on pleure, on est ému, on se dit mais elle est folle celle-là. On peut reconnaître quelques personnes qu'on a pu croiser dans nos vies ou pas, se dire qu'on a de la chance de pas être forcément à la place de l'un ou l'autre qui se retrouve dans le film, parce que c'est vrai que ce sont des personnages avec des caricatures, mais on sent qu'il y a beaucoup d'humanité, y compris d'ailleurs, et c'est ce qui transpire dans le casting que vous avez fait, c'est-à-dire qu'on retrouve les Jean Benguigui, les Pierre Palmade, Cadmerade qui vous avez casté dans son premier film.
Absolument.
Donc c'est un juste retour des choses qui soit dans votre premier
film. Il avait vu la pièce et il m'avait dit si tu fais un film à partir de ce texte, je voudrais bien être le docteur Steinman. Donc voilà.
Il est prêt à tout pour bosser.
Et puis Françoise, c'est depuis le début aussi.
Elle était venue vous voir au théâtre.
Elle était venue me voir, donc C'était encore mieux l'après-midi. Enfin, elle n'était pas venue me voir. Elle était venue voir C'était encore mieux l'après-midi. Et j'avais 10 lignes dans C'était encore mieux l'après-midi. C'était vraiment mon premier rôle dans un grand théâtre. Et Françoise avait demandé à être présentée pour me dire vous allez marcher. Donc,
vous l'avez choisi, vous avez dit, parce qu'il me fallait une maman écrasante de beauté.
De beauté, de présence. Avec une autorité. naturel. Et Françoise, depuis toujours, vraiment, on avait le même agent, c'était Guy Bonnet, oui. Et on en parlait tous les trois.
C'est mon agent.
Ah voilà. Ouais, exactement.
Et elle m'a dit, si je fais un film un jour, j'écrirai un rôle pour toi.
Ah ouais. Ouais.
Brillantissime sort demain au cinéma. L'album de Françoise Fabian va arriver. Mais alors, pourquoi vous avez attendu?
Vous en parlez comme ça.
Mais parce que je voudrais savoir comment ça vous a pris?
Comment ça m'a pris?
L'envie, oui.
Ah, mais j'ai toujours eu envie de chanter. J'ai chanté
d'ailleurs. Vous étiez sur scène récemment avec Alex Baupin, ouais, à la Philharmonie.
Oui, bien sûr, on a chanté. Et puis j'ai chanté avec Jean-Christophe Averty beaucoup. J'ai chanté avec Guy Béard, j'ai chanté beaucoup à la télévision. Et je voulais faire un album qui n'a pas pu se réaliser parce que c'était un moment où je travaillais beaucoup en Italie. Et Serge Reggiani m'avait dit, tu sais, pour faire un album, il faut 2 ans. Mm-hmm. Parce que le temps de chercher des chansons, les musiciens, composer et tout ça, c'est long. Et j'ai eu cette chance ou cette malchance de vouloir faire un album qui n'a pas pu se faire puisque j'ai tout de suite été faire 4 films en Italie. Voilà. Et c'est maintenant que je m'y prends. Je trouve que la vie, ça n'est rien si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire dans la vie. Hein, c'est vrai.
Et vous avez
encore chose.
Toujours tout fait vouliez.
Oui. Je crois que j'ai essayé de faire tout ce que je voulais, oui. Mais moi, j'ai la vie accrochée au corps, j'ai envie de faire des choses et je crois que ça s'arrêtera le jour où je dirai, bon, allez, adieu, je peux plus rien faire.
Rideau, l'artiste. Rideau, oui. À propos de scène, vous êtes en tournée en ce moment,
ah oui,
Michel. Je vous trouve extrêmement détendu pour la veille de la sortie d'un film. Tout à l'heure, François disait, moi j'ai le trac, j'ai toujours le trac dans ma vie. Vous êtes extrêmement détendu.
Mais oui, parce que j'ai fait le film que j'avais envie de faire et que je suis déjà très heureuse d'avoir été entourée de ce casting extraordinaire. Parfait. Et voilà, et des coprods et du public qui est présent.
Et de l'accueil déjà, surtout.
Ouais, en avant-première.
Mais vous avez raison parce que c'est un film agréable. On rit, on est ému et on passe un très bon moment, ça fait du bien.
Au théâtre, par exemple, tu as le trac quand tu
Non, j'ai plus le trac.
Ah, au théâtre, c'est fini. Le trac. Oui.
Elle s'aime, donc avec Muriel Robin en tournée. Le 19, vous serez à Arcachon la semaine prochaine. Le 20 janvier à Montpellier, puis Longjumeau, Lille, Toulouse, Dunkerque, Mureau, hier, Mouilleron le Captif. Et puis à la Cigale à Paris, ça sera le 15
avril. On termine à la Cigale où j'avais commencé avec Pierre, il s'aime.
C'est un signe. Voilà. Des excuses à présenter, peut-être.
Oui, désolé pour Nagui qui a découvert ce matin un producteur désintéressé par l'argent.
Non,
le pauvre choupinou, il est bouleversé.
Mais
courage, Nagui, ça va passer. Désolé pour nos auditeurs fragiles, friables dans le doute, qui ont découvert ce matin, grâce à Nagui, qu'il n'était qu'une bande de bras cassés inutiles pour notre société et qu'il ne méritait que la mort. Bon, dit comme ça, c'est violent, mais il y avait quand même un petit peu de tendresse dans son regard. Désolé pour les producteurs des Césars et des Molières qui avaient prévu de rendre hommage à Françoise Fabian. Hein, j'ai cru qu'on comprendre qu'elle n'était pas dispo pour les prochaines années. Et encore, je reste poli. Hein. Elle aime pas les récompenses.
Merci mille fois. Et comme on dit, merde pour demain. Brillantissime, Michel Larocque, Françoise Fabian, à très bientôt.
À bientôt,
j'espère. Merci mille fois. Demain, Isabelle Carré et Bruno Solo seront là pour nous parler théâtre. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Comment dire Philippe. Aujourd'hui, vous avez été...
Oui, non. Non, ne le dites pas, merci.
Ah bon.
Bonne émission.
Salut.